présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Avant d'ouvrir la porte, il la regarde bien, nue, sur les draps, les cheveux défaits. Elle est vraiment très belle. Elle a pris sa voiture. la garer dans le garage souterrain.
Et ben, pour ouvrir la porte de son appartement, la porte s'ouvre toute seule. C'est Ricain qui lui a ouvert. Entrez, madame. Elle entre. Elle demande, qu'est-ce qui se passe? Ricain lui dit, vous avez tué votre mari. On a tout vu.
Moi? Mais, je n'ai pas pu faire ça. Je n'ai pas pu faire une chose pareille.
Ricain lui dit, venez voir, madame. Et il l'amène au bureau de son mari. Là, il y a l'amphore et à terre, le cadavre de son mari.
Mon Dieu! Mais qui a pu faire ça? Il est vraiment mort?
Ricain lui dit, oui.
Mon Dieu, c'est terrible! Mon pauvre mari! Mais je suis sûr que c'est sa maîtresse.
Ricain lui dit, asseyez-vous, madame. Restons calmes. Nous sommes entre amis. Elle va s'asseoir dans un fauteuil.
Ricain lui dit, écoutez, vous avez demandé à Monsieur Diap de faire surveiller votre mari. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait d'une façon spéciale, madame. L'accident qu'a eu votre mari n'était pas un vrai accident. Il était provoqué. Elle lui dit,
je m'en doutais.
Il lui dit, c'était pour le faire venir dans nos cliniques et lui mettre dans son cerveau une puce qui nous permettait de le surveiller. Et nous avons assisté à sa mort. Nous avons vu que c'était vous qui l'aviez tué.
Elle lui dit, mais non, vous mentez, c'est impossible, c'est l'autre.
Ricain lui dit, moi je vous dis que c'est vous, et j'en ai la preuve. Elle se lève furieuse et lui dit,
si j'avais tué, je m'en serais souvenu, et pourquoi l'aurais-je fait?
Ricain lui dit, bien, alors, si ce n'est pas vous, que faisiez-vous au moment du crime? Elle réfléchit, et lui dit,
je ne sais pas, comment voulez-vous que je le sache?
Mais vous étiez bien quelque part, elle lui dit.
Sûrement, oui.
Alors,
je ne vois pas.
Cela vous paraît pas bizarre de ne pas le savoir? Elle lui dit,
attendez, vous m'annoncez la mort de mon mari, puis vous me posez des questions, et vous me dites que je l'ai tué, qu'il aurait un robot dans le cerveau, je ne sais plus, moi.
Il lui dit, si vous vous souvenez de rien, il doit y avoir quelque chose à résoudre. Vous allez venir avec moi et nous allons vous examiner.
Mais je ne suis pas folle.
Personne ne vous dit que vous êtes folle. Il faut vous examiner. Quelqu'un qui ne se souvient de rien, ce n'est pas normal. Venez. Elle lui demande.
Et mon mari?
Il lui dit, nous allons nous en occuper. Je suis médecin. J'ai écrit l'autorisation d'inhumer. Il a eu une crise cardiaque, trop de surmenage. La police vous demandera rien. Vous voyez, vous pouvez nous faire confiance. Allez, venez. Elle soupire épuisée.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Rien. Seulement vous examinez et vous montrez la vidéo où vous avez tué votre mari.
Mais je ne l'ai pas tué.
Nous verrons bien. Venez.
Bien.
Elle les suit. On l'a menée dans une grande voiture. On l'a fait asseoir entre Riquin et Danfort. Danfort lui dit
« Je suis Danfort, l'homme de confiance de Monsieur Dapp. »
Elle lui demande
« Je me demande si j'ai bien eu raison de lui faire confiance. »
Et la voiture file jusqu'à la clinique. À la clinique, Riquin dit
« Chambre 421 ».
La femme panique et lui dit
« Mais je veux pas être hospitalisée ».
Riquin lui dit « Mais non, c'est juste pour voir, pour pouvoir vous passer des tests, des examens. Allez !»
Une fois qu'ils sont dans la chambre 421, Riquin lui dit
« Vous allez tout d'abord voir la vidéo du crime de votre mari et vous me direz si vous vous en souvenez. »
On amène un téléviseur avec un magnétoscope.
On installe tout ça.
Puis, tout le monde s'assoit sur des chaises.
Et Riquin met le magnétoscope en marche.
L'on voit dans le noir les bruits. Le mari qui se demande ce qui se passe, qui se lève.
L'on voit ce que l'on voit et entend le mari avec les yeux du mari et les oreilles du mari. Il est dans le bureau. La femme avec sa sacoche devant le coffre.
Galien dit à la femme, « Alors, vous vous souvenez de ça ?»
Elle lui dit, « Mais non, ce n'est pas moi. Je m'en serais souvenu. C'est impossible. »
« Mais pourtant, c'est bien vous ?»
Elle lui dit,
« Elle me ressemble. Mais ce n'est pas possible. Non. »
Il lui montre la scène où elle parle. Elle lui dit
« Alors ?»
Elle lui dit « Mais non, c'est impossible. Ça ne peut pas être moi. »«
Eh bien, c'est bien votre voix ?»«
Oui, je crois. Je ne sais plus. C'est trop horrible. »
Et il lui montre le crime. Ce que voit le mari et entend pour la dernière fois.
Riquin lui dit, vous avez compris ce que vous avez vu. C'était ce que voyait votre mari avant de mourir et que c'est vous qui l'avez tué.
Elle se met à hurler. « Non, c'est faux. C'est une machination. Vous êtes tous contre moi. C'est un coup monté. C'est faux, cette vidéo. Pourquoi est-ce que vous m'en voulez ?»
Riquin lui dit, « Calmez-vous. Nous ne voulons aucun mal. Nous savons que c'est un coup monté. Mais ce n'est pas nous qui
qui avons fait ce coup. Et nous ne savons pas qui est-ce. C'est pour cela que nous nous avons amenés ici. C'est pour le savoir. Nous allons vous faire des électrochocs, radio du cerveau, prise de sang, analyse d'urine, fond de l'œil. Après tous ces examens, nous verrons plus clair. Elle lui dit,
mais je ne suis pas malade, ni folle.
Bien sûr que personne ne le pense. Mais il faut savoir ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Et pour cela, pour nous permettre aussi, peut-être, de punir le coupable. Car vous avez tué votre mari, mais ce n'est pas vous. On dictait cet ordre. Vous êtes prête pour les examens ? Elle lui dit.
Et mon mari ?
L'enfant lui dit. Tant que vous serez ici, personne ne sait qu'il est mort. Et après, Riquin annoncera sa mort officielle. Vous n'aurez qu'à être une veuve comme les autres. Personne ne viendra vous demander quoi que ce soit.
Elle lui dit, commencez le plus vite possible. Faites ce que vous avez à faire.
Et tout de suite, ils font ce qu'il y a à faire. D'abord radio du cerveau, puis prise de sang, urine, ensuite électrocardiogramme, fond de l'œil. Riquin a suivi tout ça. L'enfant est resté au bureau à attendre le résultat. Une fois que c'est fini, on a couché Florence avec un somnifère et Riquin est allé avec les résultats à son bureau voir d'enfort qui l'attend. Il s'assoit à son bureau. D'enfort lui demande alors. Riquin lui dit, physiquement, elle est normale, mentalement aussi. Mais il y a bien une chose que nous avons vue dans les radios du cerveau. Un petit point noir, minuscule. Avec l'ordinateur, nous avons fait grossir la chose et nous avons reconnu une de nos puces à cerveau. Elle a une puce dans le cerveau qui lui donne des ordres et lui fait croire à des choses, tout en lui donnant deux personnalités indépendantes et inconnues l'une de l'autre. Elle a été robotisée, télécommandée, pour voler son mari et le tuer. L'enfant lui dit, « Qui a pu faire ça ? Quelqu'un d'ici, peut-être quelqu'un qui est une taupe, pour prendre des informations et les vendre. Sûrement un chercheur ou un haut placé. » L'enfant lui dit, « Faudra faire une enquête. » Riquin lui dit, « Oui, mais attention, il ne faut pas qu'il s'en rende compte. » L'enfant lui dit, « Et pour la femme, nous allons lui enlever la puce et chercher où elle envoie ses informations. » L'enfant lui dit, « Vous allez lui dire à elle, il vaut mieux. De toute façon, il faut l'opérer. » D'enfort, le lendemain matin, vont voir la femme. À après qu'elle ait pris son petit déjeuner. Ils vont la voir dans sa chambre.
Entrez.
Bonjour, madame.
Bonjour, messieurs.
Riquin lui demande, « Vous allez mieux ?»«
Oui. Et alors ?»
Riquin et Danfort vont s'asseoir à côté du lit.
Riquin lui dit, « Eh bien, nous avons trouvé ce que vous avez et ce qui s'est passé. Voilà. »
Il lui explique tout et l'opération qu'elle doit subir. Elle lui dit,
ce n'est pas croyable tout ça. Vous les scientifiques, vous croyez tout permis. Et la liberté individuelle,
Riquin lui dit, elle n'existe plus. La science a tué. Nous allons vous enlever cette saleté.
Elle lui demande, « Je vais souffrir ?»«
Non, pas du tout. Je vous le promets. Je vais vous enlever un peu de cheveux, vous endormir, et voilà, un petit trou et des agrafes. » C'est ce qu'ils font. Pendant qu'elle est endormie, la puce est examinée. Ils essayent de voir où elle reçoit l'information et les envoie. Regarde avec des longueurs d'onde. Radar. Mais il ne trouve personne en France qui envoie et reçoit des messages de cette sorte. Fort dit,
à moins que ce soit chez nous que ça se passe, il faudrait faire une enquête discrète.
Ce temps, Florence Tanès se sent mal à l'aise. Malgré elle, elle se sent coupable de la mort de son mari. Elle sort de la clinique bouleversée. Elle entre chez elle en taxi. Et retrouve chez elle le cercueil de son mari. Danfort a tout préparé. Les employés des pompes funèbres sont là et il va être enterré dans l'après-midi. Elle a l'impression de vivre comme dans un rêve. L'enterrement qui se fait avec des gens de la famille et quelques intimes. Elle se retrouve seule chez elle après cet enterrement, dans cet appartement vide. Ça lui est insupportable. Alors, elle a pris sa voiture et roulé dans Paris et file et file. Ses nerfs sont à vif. Elle ne sait pas où elle va. Sa gorge se serre, elle a les larmes aux yeux, elle voit trouble. Tout à coup, un camion. Il a barré ce passage. Elle n'a pas eu le temps de freiner que sa voiture est passée dessus. Elle n'a vu que du blanc et des débris de glace qui allaient sur elle. Puis sa tête a cogné le bord du camion en arrachant le toit de la voiture. Ça s'est passé si vite qu'elle n'a pu comprendre ce qui lui arrivait. On peut dire qu'elle est morte sur le coup, le visage ensanglanté, la boîte crânienne éjectée par derrière. Trois jours plus tard, lorsque Ricrin la prend, il y a d'enfort. On aurait peut-être pu la garder quelques jours avec nous. Elle avait tout de même reçu un choc. L'enfant lui dit, « C'est mieux comme ça. Il n'y a plus de témoins de cette malheureuse affaire. » Ricrin lui demande, « Et les documents du mari ? Ils sont dans mon bureau. Ça pourra nous servir. » Je fais racheter son entreprise. Ricrin lui demande. Et l'espion, la taupe. Laissons tomber. Nous verrons bien. De toute façon, je crois qu'on n'entendra plus parler de ces espions. Les jours passent. Près de Versailles habite la famille de Vos. Dans une maison bourgeoise du 19e, au fond d'un parc, avec quelques arbres centenaires. La maison a 3 étages. Elle est très grande, avec un perron sur le devant, une rampe sur les côtés du perron, une grande porte vitrée pour l'entrée de la maison. La façade est sculptée, il y a des balcons. On entre dans un grand hall d'entrée où se trouve un grand escalier de pierre qui donne aux étages. Il y a beaucoup de pièces, de meubles, de tapis. Les meubles sont Louis-Philippe. Tout ceci donne beaucoup de travail et la maîtresse de maison est obligée d'être aidée. Il faut un gardien, une femme de chambre au moins. Il y a aussi une cuisinière, un majordome et un chauffeur.
Nous allons rejoindre Monsieur et Madame Devaux au salon du premier.
Ils sont tous deux assis dans des fauteuils. Madame Devaux, Henriette, est une grande femme, mince, grande, dans les 40 ans. Elle est blonde, le visage un peu osseux, habillée d'une robe noire. Son mari, Julien Devaux, est grand, mince, cheveux grisonnants, dans les 45 ans. Son visage est assez autoritaire, est habillé d'un costume gris. Antoinette dit
« Je comprends très bien qu'il faut faire des économies, mais la maison est grande, et si l'on supprime des domestiques, comment vais-je faire ? »
Il lui dit « Je ne supprime pas des domestiques, mais quelqu'un, le jardinier, qui n'a rien à voir avec la maison. »
« Et qui fera le jardin ?»«
Je ne sais pas. Moi, après mon travail, le majordome. »
Elle lui dit « Et si nous vendions la maison ?»«
Sûrement pas. Déjà, mes affaires ne vont pas très bien. Mais si l'on vend la maison, l'on va jaser. » Et ce sera notre faillite.
Elle soupire et lui dit « Bien, ma foi, s'il faut se défaire de domestiques. »
Galien lui dit « Faisons cela pour notre fille. » Il se lève et dit « Je dois vous quitter. »
Il sort de la pièce. La mère soupire, se lève, elle aussi sort de la pièce. Elle va au 2e étage, à la chambre de sa fille. Entrez. Elle entre. Sa fille est encore au lit. C'est une jeune fille de 15 ans, blanche, blonde, mince, très grande, belle comme la jeunesse. Sa mère s'approche d'elle.
Tu ne te lèves pas ?
Elle lui donne un baiser. Si je me lève, sa mère lui dit
« Ton père est insupportable. Il veut que l'on supprime le jardinier et une bonne. Je serai obligée de tout faire moi-même. Vivement que tu sois mariée, ma fille, je retournerai à Paris dans un petit appartement. »
Nicole lui dit « Qui sait, peut-être ce soir pendant la soirée ?»«
Oh oui, ma 7 soirée !»
Elle soupire et lui dit
« Ce sera peut-être la dernière, mais je tiens absolument à ce que tu te fasses très belle. »
Il y aura beaucoup de monde. Diap, tu sais, l'homme le plus riche du monde, et qui en plus est célibataire. Frédéric Lefort, homme remarquable. Guillaume de Flory, Monsieur d'Anfort, la comtesse de Paris, le ministre des Finances, je crois, Pierre-Marc Roussillon, et Mathieu Broderick et beaucoup d'autres.
Mais mère, je croyais qu'on était ruiné, sa mère lui dit.
La soirée est financée par l'entreprise de ton père. Elle sera déduite de ses impôts comme promotion publicitaire.
Tu penses bien que nous n'avons plus les moyens de faire une fête personnelle.
Allez, lève-toi vite. Aujourd'hui, tu dois te faire belle et te préparer.
J'enverrai un mot d'excuse à ton école.
Durant toute la journée, la mère et la fille préparent la soirée. La mère donne des ordres aux domestiques pour déplacer les meubles, mettre des tables, ouvrir des portes pour passer en enfilade d'un salon à un autre. On met une estrade pour l'orchestre, des fleurs de partout. Le traiteur, le sommelier, l'orchestre. Une fois que tout est prêt, la mère et la fille vont dans la chambre pour se préparer pour la soirée. Prendre une douche. Choisir une robe, bijoux, chaussures. Le coiffeur viendra aussi. À 20h, le mari arrive. Il monte à la chambre de sa femme.
Entrez. Il entre. Elle est à sa coiffeuse en déshabillé noir.
Il lui demande « Tout est prêt ?»«
Oui. Tu sais que Galien Diap sera là ce soir et qu'il est célibataire. Il faudra que notre fils fasse tout pour le séduire. Si elle se marie avec lui, nous serons sauvés. »
À 21h, les invités commencent à arriver. De grandes voitures, Mercedes, Rolls, BMW, se garent dans le parc. Le jardinier les guide pour qu'elles puissent se garer. Des femmes en robe du soir chatoyante, des hommes en smoking.
L'orchestre se met en place pour jouer. Les salons se remplissent, des serveurs passent des boissons. Galien et Guillaume sont arrivés en même temps. Le maître de maison accourt à eux.
Bonjour, merci d'être venu.
Je suis Galien Diap et mon ami Guillaume de Fleury.
Je vais vous présenter à ma famille.
Et le mène à sa femme et à sa fille.
Ma femme Antoinette et ma fille Nicole.
Madame, le père dit à Galien,
vous pouvez, si vous voulez, faire danser ma fille. Elle adore ça.
La jeune fille est toute rouge. Galien la trouve charmante et la mène danser. Antoinette demande à Guillaume.
Vous êtes tous son associé?
Guillaume lui dit, non, nous vivons ensemble.
Oh?
Oui, le pacte. Elle fait.
Oh, bon, je croyais que ça n'avait pas été voté.
Guillaume lui dit, je ne sais pas, mais en tout cas, nous vivons ensemble. Et Guillaume s'éloigne pour aller dire bonjour à Mathieu Broderick. La mère dit à son mari.
Ça ne vaut pas la peine que ta fille danse avec lui. Il a déjà quel corps?
Il lui demande, qui t'a dit ça?
Elle lui dit,
celui qui vit avec.
Elle lui montre Guillaume. Le mari lui dit,
je cherche peut-être à faire un mariage d'arrangement. Pour les affaires, c'est mieux.
Elle lui dit,
et tu donnerais ta fille à ce genre d'arrangement?
Si ça peut nous aider, oui.
Et la soirée se continue. Pierre Max Roussillon interview les invités avec un drôle d'appareil. Il sent un parfum bizarre. Une femme à tête de cheval lui demande,
quel est ce parfum si subtil que vous avez mis? Ne serait-ce du Chanel?
Pierre Max lui dit,
ce n'est pas du parfum, c'est parce que j'habite en rez-de-chaussée.
La femme rit et lui dit,
petit cachotier, va, vous voulez pas me le dire, parce que vous voulez pas que je m'en mette. Vous voulez en garder l'exclusivité.
Nicole trouve Galien charmant. Il est beau. Elle lui dit,
mon Dieu, j'ai l'impression de danser dans les salons du Titanic.
Il lui dit, je suis justement en train de construire un super bateau. Ne me donnez pas la poisse. Elle lui demande,
suis-je aussi belle que l'héroïne?
Beaucoup plus. Elle lui dit,
si nous arrêtions de danser et allions dans le parc,
il lui dit, je veux bien. Votre visage, éclairé par les rayons de la lune, doit être encore plus romantique. Elle lui dit,
allons-y.
Le père voit sa fille mener Galien dans le parc. Il dit à sa femme,
nous avons une brave fille.
Nicole mène Galien dans un coin du parc, derrière la maison, sous une tonnelle où se trouve un banc de pierre. Il s'assoit. Sa robe blanche s'illumine au milieu de ses ombres. Elle lui prend la main et lui dit,
je crois que je suis un peu gênée. Au vieux jeu, j'aime être aimée comme dans le temps. Des fois je me dis que je ne trouverai jamais personne qui me plaise.
Les jeunes gens que mon père me présente sont derniers. Il ne pense qu'à l'argent. Galien lui dit,
je suis sûr que vous trouvez quelqu'un de très bien.
Elle lui demande,
est-ce que je vous plais?
Oui, bien sûr, beaucoup. Elle soupire. Elle lui dit,
oui, mais beaucoup, ce n'est pas assez.
Il lui dit, je voulais dire que je vous trouve très belle.
Merci.
Elle lui demande, comment voyez-vous vos amoureux?
Elle lui dit, je les vois, mes mains à la folie, prêts à tout pour moi.
Et beau, très beau. Et lui demande, et moi, je suis comment?
Elle lui répond, vous êtes très beau. Mais vous ne m'avez même pas embrassé.
Galien lui dit,
c'est-à-dire que je ne suis peut-être pas le jeune homme que vous attendez. Je ne suis plus aussi romanesque.
Et vous êtes très beau.
Il lui dit, vous êtes une très jeune fille. Et il vaut mieux que vous le sachiez. Je suis déjà pris.
Ah, elle doit être heureuse.
Non, il doit être.
Elle soupire et lui dit,
c'est dommage.
Il lui dit, je préférais vous le dire avant.
Vous avez raison,
Oui, vous avez raison. Allons entrer. Ce ne sera pas encore ce soir que je le rencontrerai.
Elle se lève, lui aussi, et s'en retourne au bal. Elle lui dit « À tout à l'heure ». Elle s'éloigne. Le père prend le bras Galien et lui dit
« Tout ça est bien trop sage. »
Alors, jeune homme, on s'amuse ?
Oui, monsieur. La mère va vers son mari et lui dit « Il faut l'esquisser ». Et prend son mari par le bras. Le même est pépinien et lui dit «
Tu es complètement fou ! Tu te traites comme un gamin ! Tu es l'homme le plus riche du monde ! Tu te prends par la manche ! Et puis quoi encore ?»
Le père lui dit
« J'ai appelé jeune homme. »
Tu vas te prendre pour qui ?
Galien va vers Vincent et lui dit qu'est-ce que c'est que ces gens ? Pourquoi on lui fait venir ici ?
Vincent lui dit les vaux sont propriétaires d'une entreprise d'appareils médicaux et est en difficulté. Vous l'aidez financièrement et il vous appartient. Pour cela, Riquin pourra faire construire ses appareils de cette imagination à bon marché.
Galien lui demande et je suis obligé de me marier avec la fille ?
Vincent lui dit sûrement pas, elle est ruinée. Pour vous, il faudrait au moins la reine d'Angleterre. Enfin, pas celle-là, la future, s'il y en a une autre. S'il y en a une autre un jour, bien entendu. Non. Et puis, en aidant le père, et si vous vous mariez avec sa fille, c'est comme si vous mariez avec une domestique. Non. Allez voir le père, dites-lui que son affaire vous intéresse et que vous êtes prêt à la renflouer à condition d'avoir 51%. Bien entendu, avec lui. Lui aura 49%. Il ne pourra pas dire non, il est ruiné.
Galien voit que Guillaume danse avec Nicole. Il se dit, la pauvre petite, elle va encore être déçue. Décidément, à notre époque, les femmes n'ont pas de chance. Il dit à Danfort, bien, je vais parler au père. De toute façon, je m'ennuie à mourir. Il voit que la maîtresse de maison danse avec Frédéric Lefort. C'est le jeune ministre de l'énergie. Il paraît qu'il a un travail fou avec toutes ses centrales à moderniser et à construire. Son objectif, c'est 100% atomique. Les anards et les vers veulent sa peau. Les gardes du corps sont constamment près de lui. Il parle de lui dans les salons pour la prochaine présidence de la République. Danfort le regarde danser, soupire et dit à Galien
« Il aura beau être président de la République, cela ne changera rien. Le pouvoir, c'est nous qui l'avons. »
Galien lui dit « Et si nous nous proposons un poste chez nous ?» Danfort lui dit
« Non, il est trop pur. »
Galien lui dit « Bon, eh bien, je vais aller voir le père. » Et il va vers M. De Vaux. Il lui dit « M. De Vaux, nous pourrions-nous pas aller dans un endroit plus calme pour parler affaires, si vous voulez bien ?» Et vous dites
« Oui, bien sûr, allons dans mon bureau. »
Et il mène Galien à l'étage, jusqu'au premier étage.
Il ouvre une porte. Entrez. C'est le bureau, style anglais, cuir marron, meuble bois marron foncé, un peu rosé. Asseyez-vous. S'assoit Galien dans un fauteuil. Et lui demande, vous voulez boire quelque chose ?
Oui, un cognac.
Et de Vauche va sur une petite table qui sert de bar. Il prend une bouteille et deux verres. Puis va y déposer sa table basse qui est en face de Galien. Et sert.
Tenez.
Merci.
Merci.
Puis, il s'assoit en face de Galien.
Devaux lui dit,
je vous écoute.
Eh bien voilà, j'ai appris que vous aviez une entreprise de machinerie médicale.
Oui, une entreprise qui fabrique des machineries médicales, c'est exact.
Galien lui dit, j'ai eu des échos que cette entreprise avait quelques difficultés.
Devaux lui dit, oui, c'est exact.
Eh bien, je suis prêt à vous aider parce que je crois à ces machines.
Je vous remercie.
Je vous aide financièrement et je rentre dans votre capital à 51%. Vous avez le reste 49%. Est-ce que cela vous va?
Devaux soupire et lui dit,
il le faut bien.
Galien lui dit, malgré mes 51%, vous restez toujours le PDG de cette entreprise. Je ne m'occupe que de voir les comptes. Vous serez entièrement libre. Bien entendu, si l'entreprise a encore des difficultés financières, le groupe Jeune Tout Pontois prendra tout, 100%. Cela vous va?
Oui, merci.
Bien, j'aimerais c'est visiter l'entreprise et voir la comptabilité. Quand puis-je venir?
Demain à 15h, si cela vous va, à l'entreprise.
Bien.
Je vous remercie, parce que j'étais vraiment en difficulté. La preuve, c'est que j'ai renvoyé mon jardinier et ma bonne.
Galien lui demande, pourquoi?
J'avais plus assez d'argent pour avoir une maisonnée.
Galien lui dit, mais vous êtes obligé d'avoir du personnel pour une maison comme celle-là.
Je sais, mais que voulez-vous que je fasse?
Galien réfléchit et lui dit, il y a une solution. Vous achetez un mutant ou deux et ils font le travail. Ce n'est pas cher. Ça ne coûte rien. Pas de salaire, mange peu, dort peu, pas de sécurité sociale et de retraite. Et si vous n'en voulez plus, vous pouvez les brûler. Ils n'ont pas de statut d'humain, mais de bête. Qu'en pensez-vous?
Monsieur Devaux réfléchit, lui dit.
Oui, pourquoi pas?
Galien lui dit. Bien, venez en choisir un autre siège. Tenez, je vous l'offre.
Merci.
En même temps, nous signerons notre accord. Tenez, je visite votre établissement, vois les comptes, et après on va au siège pour signer, et vous repartez avec un mutant.
Très bien.
Et tout est arrangé.
Le lendemain matin, Galien dans son bureau.
Allô, pouvez-vous dire à M. Danfort de venir me voir? C'est urgent, merci.
Entrez, M. le Président. Venez vous asseoir, M. Danfort.
Tout est arrangé. Cet après-midi, je visite et regarde les comptes de l'entreprise. Après, nous venons ici signer. Je lui ai promis un mutant. Nous en ferons cadeau. Nous en ferons cadeau d'un. Ériquin viendra avec moi visiter l'entreprise et vous, vous préparerez les papiers pour la signature. Bien, monsieur le président. Galien a arrêté sa voiture devant l'entreprise de Vaux qui se trouve à Boulogne. C'est un immense hangar et une petite bâtisse pour les bureaux. En voyant ça, Galien dit à Ricain : Vous êtes sûr que l'on doit acheter cette petite chose ? Ricain lui dit :
Une fois à nous, on rase tout. Ce qui compte, c'est les brevets, les ingénieurs. La fabrication, ça se fait dans n'importe quel endroit du monde et même sur la Lune.
Ils sortent de voiture pour entrer dans les bureaux. Devaux les accueille.
Bonjour, messieurs.
Bonjour, monsieur Devaux. Je vous présente monsieur Ricain,
notre ingénieur scientifique et PDG de la clinique Genetou. Il est venu voir votre entreprise parce que ce que vous fabriquez l'intéresse beaucoup.
Ricain lui dit, surtout les microscopes électroniques. Devaux leur dit,
veuillez me suivre.
Et ils vont dans le hangar. Il est divisé en deux. D'un côté, la recherche avec les ingénieurs sur le pupitre et ordinateur, et de l'autre, la fabrication de machines. Les gens sont en blouse blanche. C'est propre, les murs sont blancs. On n'en entend pas beaucoup de bruit. Mais les choses se font d'une façon artisanale. Et c'est long pour fabriquer. En résumé, c'est du bon travail, mais trop cher.